Nous allons relire, et je le dis à l'endroit de ceux et celles qui étaient parmi nous hier soir, nous allons relire dans le premier livre de Samuel quelques extraits du chapitre 1er et du chapitre 2, ainsi que le début du chapitre 8. Premier livre de Samuel, je lirai pour vous les 11 premiers versets, et puis nous sauterons un peu plus loin. Donc, premier livre de Samuel dans l'Ancien Testament, au chapitre 1er, les versets 1 à 11. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, donc au cœur d'Israël, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Péninna. Péninna avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Péninna, sa femme, et à tous les fils, à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Péninna la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Chapitre 18, dans la seconde partie, verset 18, pardon, seconde partie. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point car elle dit à son mari « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la parole resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux, ils conduisirent l'enfant à Élie et Anne dit « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi. » Pour prier l'Éternel, c'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel m'a exaucé, il a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Chapitre 2, verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions, non mes enfants ? Ce que j'entends dire n'est pas bon, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Et enfin, au chapitre 8, les versets 1 à 5, chapitre 8, versets 1 à 5, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents, violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et ils vinrent auprès de Samuel à Rama. Et lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marche point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Dans notre étude d'introduction à ce vaste thème hier soir, nous avons tout d'abord fait un certain nombre de remarques préalables concernant la manière dont nous allions aborder ce thème, la stratégie qui serait la nôtre durant tout le temps d'enseignement. Je n'y reviens pas. Ceux qui écouteront les cassettes auront tout cela comme ceux qui étaient là hier soir. Ensuite, nous sommes entrés dans le sujet en considérant tout d'abord dans une introduction générale la pierre angulaire dans l'éducation des enfants. Nous considérons pour le moment des principes généraux dans lesquels, nous le verrons, il y a déjà quelques dimensions pratiques, mais il nous faut commencer par la pierre angulaire. D'ailleurs, je me dois tout simplement d'être fidèle au contenu des papillons qui indique le thème, puisqu'en dessous du thème général, l'éducation des enfants, il est précisé priorité au pluriel et équilibre. Donc nous sommes obligés de commencer par les priorités et tout au long de notre réflexion, que ce soit aujourd'hui, que ce soit en juin et éventuellement plus tard encore, nous garderons cette préoccupation de manière permanente de mettre en avant les priorités pour ne pas nous perdre dans une foule des détails qui nous cacheraient l'essentiel et de veiller aussi à l'équilibre qui est celui de la parole de Dieu dans l'enseignement sur ce précieux sujet de l'éducation des enfants. Et nous avons ouvert donc la porte à ce thème éduqué par l'exemple. Priorité fondamentale, pierre angulaire, éduqué par l'exemple. Et avant d'entrer dans quelques détails sur ce thème important, éduqué par l'exemple, nous sommes penchés hier soir quelque peu sur une juste attitude fondamentale, celle qui est à l'arrière, en toile de fond, à cette éducation par l'exemple. Et pour ce faire, nous avons commencé à nous pencher sur ce premier chapitre du premier livre de Samuel, qui nous permet d'entrer dans une vie de famille d'une époque bien lointaine, du temps donc de la naissance d'un petit bébé, Samuel, qui va remplir une fonction très importante au sein du peuple d'Israël dans une période extrêmement sombre, le temps des juges. Il sera le dernier de ces juges suscité par Dieu pour aider le peuple d'Israël à ressortir chaque fois des ornières profondes d'incrédulité, d'infidélité, de désobéissance, de perte de l'amour premier, qui sont les tristes caractéristiques de ce peuple durant les 3 siècles au moins qu'a duré le temps des juges. Samuel qui vient au monde dans un foyer, disons-le, bancal à quelque part, comme le sont tant de foyers d'aujourd'hui. Puisque nous sommes en présence d'un mari qui a des côtés remarquables, que nous apprécions quand nous lisons le premier chapitre, mais qui tout de même est un mari polygame. Elkana avait 2 femmes. Et nous avons remarqué simplement, et nous n'allons pas y revenir dans le détail, ayant 2 femmes, inévitablement, Elkana, malgré toutes ses qualités personnelles, surtout du temps des juges, eh bien, Elkana avait des problèmes liés à la présence de ces 2 femmes. C'était un homme tiraillé par une situation boiteuse, parce que, de la même manière que nul ne peut servir 2 maîtres, nul ne peut aimer 2 femmes à la fois de la même manière. Et c'est une des raisons, il y en a bien d'autres, qui privilégient dans les Écritures et qui même offrent de manière unique au cœur de la volonté de Dieu la monogamie comme relation idéale et première, fondamentale dans le couple homme et femme institué par Dieu au sein du mariage. Elkanah avait une préférence évidente pour Anne. Anne, la stérile. Anne, la stérile que Péninna faisait souffrir. Péninna qui avait le privilège d'avoir porté des enfants et qui pourtant avait des problèmes. Parce qu'elle était jalouse de l'amour d'Elkana pour sa rivale, dévorée par la peur qu'Anne puisse elle aussi avoir des enfants, et qui donc considérait que ses enfants étaient en quelque sorte son butin, une sorte de monnaie d'échange pour garder des privilèges dans sa relation avec son mari, et qui va donc, dans son orgueil pour son statut supérieur et dans cette mentalité qui veut à tout prix privilégier ce statut supérieur, va tout faire pour pousser Anne à la rébellion contre Dieu pour que sa stérilité demeure. Et là, nous avons évoqué, en essayant de transposer dans notre société, ici, en Europe ou dans nos pays industrialisés, et en soulignant que le fait d'être marié, d'avoir des enfants, ne donne pas à quiconque un statut supérieur qui générerait un quelconque orgueil et qui ferait regarder avec une certaine condescendance, voire un mépris quelque peu dissimulé, tous ceux qui n'auraient pas ce statut supérieur. Et je veux parler ici, que ce soit en dehors de l'Église, mais aussi dans l'Église, de la relation entre ceux qui sont mariés et les célibataires, mais aussi de la relation entre ceux qui sont mariés et qui ont des enfants, et ceux qui sont mariés et qui, pour toutes sortes de raisons, parfois bien douloureuses à vivre, c'est vrai, n'ont pas d'enfants. Que de troubles parfois dans nos vies communautaires à cause de conceptions de ce genre. Et puis donc nous en arrivons à Anne, qui n'avait point d'enfants, et bien entendu, qui malgré tout l'amour que lui portait son cher mari, souffrait terriblement. Elle souffrait de la rivalité, de la haine, de la jalousie de l'autre femme. Et puis, bien entendu, elle souffrait terriblement de sa stérilité. Elle se posait des questions. Et nous avons dit hier soir que le bonheur n'est pas dans le fait d'avoir ou de ne pas avoir. Le vrai bonheur est dans le fait d'être, et plus précisément d'être au cœur de la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans une juste attitude vis-à-vis des êtres et des choses. Et nous avons vu comment Elkana nous aide à le comprendre, en donnant partiellement la réponse à l'un de nos grands problèmes, puisqu'il est dit au verset 5 qu'il donnait car il aimait. Il donnait à Anne une portion double, donc du repas de sacrifice. Il y avait un certain nombre de sacrifices dans la relation de l'Israélite avec son Dieu, qui étaient des sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance, et dans ces sacrifices, une partie du sacrifice était en quelque sorte offerte à l'Éternel et brûlée, mais l'autre partie était mangée dans un repas de fête et de reconnaissance, à la fois par le corps sacerdotal, mais aussi par ceux qui étaient venus offrir le sacrifice. Et il est donc ici question de ces portions qui étaient partagées pour un repas après le sacrifice. Il donnait car il aimait. Le bonheur n'est pas dans la possession, mais dans le don de ce que l'on possède. À commencer, bien entendu, par le don de soi-même. Et Dieu a travaillé dans le cœur d'Anne pour changer sa mentalité, de manière à ce qu'elle ne veuille pas un enfant pour elle-même d'abord, simplement pour quitter cette stérilité qui lui semblait honteuse, d'autant plus comparée à la fécondité de sa rivale. Il ne fallait pas non plus que dans l'esprit d'Anne, ce soit le bonheur de son mari d'abord qui prévale, même s'il était quelque chose de légitime. Ce que Dieu voulait faire comprendre à Anne, c'est que si dans sa grâce il lui donnait un enfant, il faudrait que cet enfant, de toute manière, lui soit remis, qu'il soit considéré non comme la possession d'Anne, non comme la possession d'Anne et d'Elkana, mais comme tout d'abord la possession de l'Éternel. Donne-moi pour toi, telle sera au verset 11 la prière d'Anne. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous un enfant. Permets que je sois féconde. Donne-moi pour toi. Pour toi. Et combien il serait beau que nous vivions dans cette mentalité. Donne-moi pour toi. Mon bonheur sera d'avoir pour toi. Je ne veux pas simplement cet enfant pour mon seul petit bonheur personnel, ou pour faire plaisir à mon mari, ou pour cimenter notre union conjugale. Tout cela, ce sont des dimensions certes légitimes, mais pas premières. Ces choses nous seront données comme par-dessus. Selon la parole de Jésus, cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus, y seront ajoutées. Moi, d'abord. Voilà la priorité fondamentale que nous dit Dieu ce matin, en ce qui concerne l'éducation des enfants. Et elle s'inscrit à contrario, complètement à contre-courant de toute la mentalité d'aujourd'hui, au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau de l'éducation des enfants. Et je retrouvais ce matin, en faisant quelques derniers préparatifs, un extrait d'un interview au cours duquel Evelyne Sullerot, qui a été la fondatrice du planning familial en France vers la fin des années 50, répondait donc à quelques questions après avoir, d'une part, élevé 4 enfants, écrit une douzaine de livres sur les femmes, et puis finalement consacré un livre à la famille. Et dans cette interview très intéressante, sur lequel nous aurons peut-être l'occasion de revenir, elle a aussi été rapporteure au Conseil économique et social sur le statut matrimonial et ses conséquences juridiques, fiscales et sociales. Et dans cette interview, où elle tire la sonnette d'alarme sur la situation, elle dit notamment ceci, quant au privilège de l'adulte, il s'impose au détriment de l'enfant qui subit cette explosion d'individualisme. Il est terrible que l'enfant passe après le plaisir et la liberté des parents. À partir du moment où un couple met un enfant au monde, Il lui doit un minimum d'engagement et de volonté de durer. Et là, nous ne sommes pas d'accord avec elle. Il lui doit un maximum d'engagement et la durée et la volonté de durer jusqu'au bout. Mais pourtant, elle saisit le problème à quelque part. Elle saisit le problème de cet égocentrisme si fréquent aujourd'hui. Un enfant, écrit-elle, c'est comme un tricot. Si on rate une maille, cela a des conséquences irrattrapables. Or actuellement, et cela date pourtant déjà, actuellement un enfant sur trois et même près d'un sur deux, entre 0 et 15 ans, transite par un foyer monoparental. Problème de l'égoïsme d'aujourd'hui. Ou bien on ne veut pas d'enfants, ou bien quand on en veut sans qu'il touche à notre confort personnel. Sans qu'il nous empêche de nous réaliser, de nous épanouir, de trouver notre plaisir. Ce n'est pas du tout dans la pensée de Dieu. Donne-moi pour toi. Et parce qu'Anne entre dans la pensée de Dieu, elle va recevoir le témoignage intérieur de sa juste attitude. Dieu va lui dire dans son cœur, « Anne, je suis d'accord avec toi. » J'exauce ta prière. Et c'est ce qui nous est dit, nous l'avons remarqué, au verset 18 du chapitre 1er. Cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Elle retrouve l'appétit. Elle retrouve la joie de vivre. Elle revient vers un équilibre qu'elle avait perdu, parce qu'elle s'inscrit dans la juste perspective au niveau de la venue d'un enfant et ensuite de son éducation. Maintenant, il y a une apparente contradiction entre le verset 11 où nous avons lu « Si tu donnes à ta servante un fils, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie » et le verset 28, dernier verset de ce chapitre 1er, « Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternera là devant l'Éternel. » Ce n'est pas une sorte de dérapage d'un scribe, d'un copiste du texte, qui aurait fait une erreur au passage. Puisque même dans le texte hébreu, le mot qui est utilisé ici va bien dans la direction d'un prêt. Alors au verset 11, elle dit à l'Éternel, « Ô Éternel, je te le donne, et je te le donne jusqu'au bout pour tous les jours de sa vie. Si tu me le donnes, il sera à toi. » Et puis maintenant, et qu'elle est avec cet enfant au temple, dans la présence de l'Éternel, elle s'exclame, « Je veux le prêter à l'Éternel. » Prêter, donner. Ah, mes amis, la Bible est inspirée dans ses mots, dans la mesure où ils sont conformes à l'original. Il n'y a pas de contradiction dans ce texte, mais un enseignement fantastique, qui est déjà un enseignement pratique concernant cette pierre angulaire dans l'éducation des enfants. Donner nos enfants au Seigneur, ce n'est pas les abandonner au Seigneur. Parce qu'il y a une manière de donner au Seigneur qui ou bien est naïve, ou bien est irresponsable, ou bien est le résultat de certains égoïsmes secrets. Il y a une manière de donner au Seigneur qui, soi-disant, veut faire tellement confiance au Seigneur qu'elle ne remplit plus ses devoirs. qu'elle en devient passive. Donner, ce n'est pas abandonner. Donner, dans un sens, c'est prêter, c'est-à-dire que, c'est vrai, l'autre gère. Mais ça ne veut pas dire que on se désintéresse. Bien au contraire. Et le message que Dieu veut faire passer dans cette histoire est celui de cette réflexion dans le cœur d'Anne. Seigneur, cet enfant, Samuel, il est à toi. Je te le confie, mais en le mettant entre tes bras de père, conscient que tu es le père parfait, le père le plus capable, le père qui va prendre soin de lui, eh bien, en même temps, en te le confiant, ben, j'en prends soin de cet enfant. J'en prends soin de tout mon cœur. Il est à toi. Je te fais confiance, je compte sur toi et je m'occupe de cet enfant en te le confiant. Donner, prêter. D'ailleurs, nous en avons une preuve absolument remarquable au chapitre 2 et au verset 18 et 19. Samuel, enfant, faisait le service devant l'Éternel. Cet enfant était revêtu d'un éphod de lin, qui était un vêtement donc semblable à celui des prêtres. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Béni soit Dieu qui nous a donné de tels détails dans les Écritures, ces détails sur lesquels on passe comme chat sur braise, pensant qu'ils sont totalement secondaires, mais pas du tout. Voilà un détail très important. Chaque fois que la maman du petit Samuel revenait, elle lui faisait un nouveau vêtement. C'est-à-dire qu'elle était obligée de reprendre les mesures de son enfant. Vous imaginez qu'elle revienne au bout de 2 ans avec des vêtements faits pour les 6 premiers mois. Elle était préoccupée par la croissance de son enfant. Seigneur, je te l'ai donné, mais en attendant, tu te sers de moi pour revêtir cet enfant des vêtements qui sont à sa taille. Parce que je te l'ai prêté. Parce que tu comptes sur moi. Pour exprimer mon amour, ma sollicitude, ma fidélité, mes tendres soins à l'endroit de cet enfant. Et il y aurait là beaucoup de choses à dire sur le travail de suite et le contrôle de nos dons d'année en année. Ceci est valable dans tous les domaines. Ceci est valable dans l'éducation des enfants. Nous aurons l'occasion de le revoir. Où nos approches de l'enfant doivent évoluer tout en conservant certains principes structurels clés des Écritures, valables pour tous les âges, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Mais nos approches de l'enfant doivent évoluer d'âge en âge. Malheur aux parents qui éduquent leurs adolescents, qui est pratiquement en passe de ne plus être éduqué, c'est un peu tard, mais qui serait tenté de l'éduquer comme s'il était encore un enfant. Il faut, quand on a 8 ans, éduquer l'enfant pour les 8 ans qui sont son âge, et non pas lui tailler un vêtement moral, psychologique, nerveux, physique et autres, qui lui donnerait l'âge de 5 ou 6 ans. Revoir continuellement certaines données pratiques dans l'éducation de nos enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et peut-être que dans nos vies, nous avons connu par moments certains échecs parce que nous n'avons pas su reprendre les mesures. Et qu'il est arrivé un moment où nos enfants se sont sentis beaucoup trop à l'étroit dans le vêtement d'éducation que nous avons fabriqué. Comme il se peut, à l'inverse, que nous ayons mis parfois nos petits-enfants dans des vêtements qui étaient trop grands pour eux. C'est-à-dire que dans leur éducation, nous avons fait d'eux nos confidents trop tôt pour partager avec eux beaucoup trop tôt, alors qu'ils n'avaient pas encore la capacité de porter certains fardeaux. Nous leur avons parlé de certains soucis. Nous les avons associés à certaines souffrances de manière trop brutale. Et nos enfants, en quelque sorte petits, ont vieilli prématurément et ils sont un petit peu comme ces gosses que l'on trouve parfois revêtus de vêtements nettement trop grands pour eux, dans lesquels ils sont tout flottants, n'est-ce pas ? Reprendre la mesure de nos enfants, comme reprendre la mesure de nos dons dans le domaine de la libéralité. Vous avez des croyants qui, en 30 ans de libéralité, de dons financiers au Seigneur pour le service dans l'Église, donnaient il y a 30 ans 50 francs, et 30 ans plus tard, ils donnent encore 50 francs, et ils estiment qu'ils sont fidèles. Sauf que les 50 francs d'il y a 30 ans n'ont rien à faire avec les 50 francs d'aujourd'hui. Même notre libéralité doit être en permanence en revue et corrigée devant le Seigneur, ne fût-ce que pour tenir compte de l'inflation et d'autres phénomènes, même la fluctuation de nos propres salaires, n'est-ce pas ? Vous voyez donc le nombre d'applications vers lesquelles nous pouvons aller simplement à partir de cette petite phrase apparemment banale du verset 19, sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Faut-il ajouter ici que Samuel, cet enfant donné à l'Éternel, ne va pas grandir dans un milieu favorable. Parce que nous pourrions être tentés de dire « Oui, mais vous comprenez les circonstances dans lesquelles je vis, le monde dans lequel je vis, la société dans laquelle je vis. » Mon passé, mon présent, mon environnement, mais tout cela, ce sont des handicaps absolument terribles, je ne m'en sortirai jamais. Ben, je bénis Dieu de ce que le contexte de ces premiers chapitres de Samuel nous indique qu'il va grandir à côté de jeunes vauriens, dépravés, qui non seulement violent toutes les règles religieuses dans le service, dans le temple, dans le sanctuaire de l'Éternel à Silo, et ce n'est pas rien, c'est fils du, on allait dire, du pasteur de l'époque, mais qui, de surcroît, vous l'avez vu au verset 22, ses fils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation, de la tente de la rencontre. C'est-à-dire que même dans l'enceinte, en quelque sorte, de ce sanctuaire de Dieu, juste à l'entrée de ce sanctuaire, se passaient des choses absolument abominables. Et rien n'est plus scandaleux, plus terrible que le religieux quand il s'associe au péché le plus abject. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a là ce côtoiement entre l'enfant, le jeune Samuel, qui continuait à grandir, verset 26, étant agréable à l'Éternel et aux hommes, et ses fils d'Élie, qui se conduisent de manière absolument abominable, en partie aussi à cause des carences dans l'éducation qu'ils ont reçue de la part de leurs parents. Nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est le temps des juges. Et le temps des juges ressemblait étrangement à notre temps. Et toutes les abominations que nous pouvons connaître aujourd'hui, à part celles qui sont liées aux nouvelles approches techniques dans le domaine des gènes, du cerveau, etc. Mais tout le reste y était, n'est-ce pas ? Que de pratiques épouvantables, que de cruautés, que de désordres. Lisez les derniers chapitres du livre des juges, chapitres 17, 18, 19, 20, 21, n'est-ce pas ? Et vous remarquerez que c'était abominable. Et pourtant, dans cette société à la fois religieuse et complètement pervertie et pourrie, un enfant va grandir en étant agréable à l'Éternel et va être entouré par une mère qui a su réagir de la bonne manière. Seigneur, si tu me donnes, c'est pour toi, je te donne. Cet enfant sera à toi. Et en te le donnant, je te le prête. Parce que je vais m'en occuper. Mais je vais m'en occuper sous ton regard, avec confiance, sachant que même dans cette société complètement pervertie, toi, tu auras le regard sur lui. Et cette réalité ne s'est jamais démentie. Jusqu'à la fin de ses jours, Samuel est resté dans des circonstances extrêmement difficiles, un homme selon le cœur de Dieu. Alors, résumons simplement tout d'abord ce que nous avons essayé d'expliquer dans ce domaine depuis hier soir avant d'aller plus loin. Premièrement, chaque enfant est un cadeau de Dieu. Chaque enfant est une grâce de Dieu. Un cadeau immérité. Même l'enfant qui est venu au monde suite à un accident, comme on dit. Autrefois, on parlait des bébés oginaux. Et il y en a eu des bébés oginaux. Ces bébés qui naissaient alors que les parents étaient convaincus qu'il n'y en aurait pas. Et puis un jour, le bébé frappait à la porte. Celui qui n'était pas attendu. Et que de bébés non attendus ont été mal reçus, mal accueillis. Des différences au niveau affectif, et parfois même beaucoup plus loin dans les domaines très pratiques de la vie. Que de bébés de ce genre ont été laissés de côté, défavorisés, ont senti qu'il n'y avait pas le même amour, qu'à quelque part ils étaient de trop. Y compris dans l'Église de Jésus-Christ. Et peut-être faudrait-il que, à la lumière des Écritures, nous soyons honnêtes devant Dieu pour lui dire, dans le cadre d'un tel week-end, Seigneur, je te demande pardon. Parce que cet enfant, je ne l'ai pas désiré. Et je n'ai pas reconnu finalement ta main derrière sa venue. Je n'ai pas reconnu ta grâce. Et le résultat, c'est que cela a engendré quantité de souffrances dans notre foyer, dans ma vie, dans celle de mon mari, dans celle de ses frères et sœurs. Et puis, par-dessus tout, dans la sienne propre. Il faut le dire au Seigneur. Peut-être faut-il lui dire aussi, d'abord, clairement, c'est vrai, cet enfant, je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas entendu.
Il m'a surpris, il nous a surpris. C'est vrai, il faut peut-être le dire d'abord. Disons ce que nous ressentons. Dieu ne nous l'interdit pas. Mieux vaut le lui dire que le cracher à la figure du premier venu, comme nous sommes tentés parfois de le faire, n'est-ce pas? Mais ensuite lui dire, Seigneur, guéris. Seigneur, pardonne. Pardonne-moi parce qu'il n'a pas été aimé comme j'aurais dû l'aimer. J'ai fait des différences et je lui ai fait savoir parfois qu'il ne pouvait pas être accueilli de la même manière que les autres. Tout enfant est un cadeau de Dieu. Mais pour que nous le lui consacrions pour tous les jours de sa vie. Un enfant n'est pas un butin. Un enfant n'est pas une monnaie d'échange. Un enfant est un don du Seigneur que je lui donne, comme Anne l'a si bien dit. Notre don, avons-nous ajouté, est un prêt. C'est-à-dire que nous nous reposons sur le Seigneur tout en restant responsables. Nous pouvons lui faire confiance tout en prenant soin de notre enfant. Apprendre, et ce n'est pas facile, c'est vrai dans notre temps, à vivre notre responsabilité de parent dans un climat de confiance et de regard sur lui. Et c'est vrai qu'il y a des moments où dans l'éducation des enfants, on panique. Il y a des enfants, des moments où l'angoisse nous étreint. Et malheur alors, si dans ces moments-là, nous cultivons un regard mal dirigé sur le problème, sur l'enfant, sur nous-mêmes, sur les circonstances, sur le conjoint, sur les autres enfants. Au lieu d'arracher notre regard à tous ces éléments que je viens de citer, pour regarder au Seigneur et lui dire, Seigneur, je te l'ai donné. Je te l'ai donné. Et en te le donnant, en te le prêtant, je te fais confiance. Seigneur, sa situation n'échappe pas à ton contrôle. Combien de fois avons-nous dit en tant que parents ceci au Seigneur, Seigneur, la situation actuelle de tel ou tel de nos enfants n'échappe pas à ton contrôle. Nous avons dû le dire, nous avons dû le crier parfois avec larmes, Seigneur, nos enfants sont sous ton contrôle. Tu nous le rappelles au moment où nous avons envie de reprendre en quelque sorte le volant entièrement entre les mains. Nous sommes tentés de reprendre. Non, Seigneur. Nous devons te faire confiance dans cette situation extrêmement difficile. Et ceci est important pour avoir une relation saine avec nos enfants. Je pense ici à l'histoire d'Abraham. Dans sa relation avec Isaac, Isaac, le fils de sa vieillesse. Et ce chapitre 22 de la Genèse, Genèse chapitre 22, cette épreuve suprême dans la confiance qui lie Abraham à son Dieu. Genèse 22, après ces choses, verset 1er, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, « Va-t'en au pays de Morijaïla, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham, mon enfant, donne-moi celui que tu aimes. Donne-moi le seul enfant qui est tien, que tu as attendu pendant 25 ans de ta vie, le miracle de la grâce dans ta vie, donne-le-moi. et donne-le-moi de la manière la plus entière qui soit, puisque je te réclame même que tu me le donnes en me l'offrant en sacrifice. Ce qui était une abomination. Ce qui était la pratique des religions païennes aux alentours du pays et des Cananéens, des anciennes populations, mais c'était abominable. Et regardez la suite. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, le prit avec lui deux serviteurs, son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, et moi, le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père », et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois, puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu n'as pas épargné ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Vous savez, Abraham, c'était un vieillard à la naissance d'Isaac. Et il avait tellement attendu cet enfant. Tellement attendu. Alors qu'est-ce qui s'était passé dans son cœur? Pourquoi est-ce que Dieu lui dit, « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Il y a là une sorte d'insistance de Dieu, comme si Dieu voulait aussi nous faire passer à nous aujourd'hui. 4000 ans plus tard, un message d'une extrême importance concernant nos relations avec nos enfants. Le problème d'Abraham, c'était son attachement à ce fils unique. Ce fils unique représentait absolument tout pour lui. Et le problème, c'est qu'il risquait de devenir une idole dans son cœur. Et c'est ce qui a fait écrire à un homme de Dieu. Abraham était vieux à la naissance d'Isaac, assez vieux pour être son grand-père. Et l'enfant devint aussitôt les délices de ses vieux jours, l'idole de son cœur. Dès l'instant où il se pencha pour prendre maladroitement le petit être dans ses bras, il devint l'esclave de son fils, dans un ardent amour pour lui. Dieu prit la peine de souligner la force de cette affection, et il n'est pas difficile de comprendre cela. L'enfant représentait tout ce qu'il y avait de sacré aux yeux de son père, les promesses de Dieu, l'alliance, l'espoir de toutes ces années, le long rêve messianique. En le regardant grandir de l'enfance à l'adolescence, le cœur du vieil homme était de plus en plus mêlé à la vie de son fils, jusqu'à ce que finalement leur relation prit un tournant dangereux. C'est alors que Dieu entra en scène pour sauver le père et son fils des conséquences d'un amour excessif. Et que d'amour excessif, que d'amour possessif, que d'amour exclusif ont fait de dégâts, à la fois dans la vie de l'un ou l'autre des deux parents, dans la vie de l'enfant qui était devenu idole, et puis dans la vie de l'environnement immédiat des frères et sœurs qui ne pouvaient supporter ce chouchoutage à outrance sur lequel nous reviendrons quand nous aborderons l'aspect pratique de l'éducation. Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur et résistant allemand exécuté par les nazis à la fin de la dernière guerre mondiale, a écrit ceci quant à la fin de l'épreuve d'Abraham. Abraham descend de la montagne avec Isaac, comme il y est monté. Mais toute la situation a changé. En termes du Nouveau Testament, Abraham avait mis sa précieuse relation avec Isaac sous la seigneurie de Christ. Elle était désormais en Christ. Christ avait pris place entre le Père et le Fils. Abraham avait tout quitté et suivi Christ. Et alors qu'il marche sur ses traces, il lui est permis de retourner dans le monde et d'y vivre comme il l'avait fait autrefois. Extérieurement, le tableau est le même. Mais toutes choses sont devenues nouvelles. Tout a dû passer par Christ. Dit d'une autre manière, Dieu doit rester Seigneur. Dieu doit rester Seigneur dans ma vie conjugale, nous l'avons dit, dans les week-ends consacrés à l'harmonie conjugale. Mais Dieu doit rester Seigneur dans nos relations avec nos enfants. Il est Seigneur. Et si véritablement Christ est Seigneur dans ma vie, dans ma relation avec les enfants, cela voudra dire aussi parfois que je serai obligé, que cela plaise ou ne plaise pas, que cela engendre des conflits ou que cela n'en engendre pas. Je serai parfois obligé, à cause de la Seigneurie de Jésus-Christ, de dire des choses dont je sais très bien qu'elles feront de la peine, qu'elles seront source de contrariété, voire de contradiction. Placer nos enfants sous la seigneurie de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons lu le reproche adressé par l'Éternel à Élie, le souverain sacrificateur et père de ces deux vauriens. Vous avez remarqué au chapitre 2 et au verset 29, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Dieu doit de temps en temps nous redire la chose. D'où vient que tu honores ta fille, ton fils, tel ou tel de tes enfants? D'où vient que tu l'honores plus que moi? D'où vient qu'il soit devenu à quelque part seigneur dans ta vie? D'où vient que tu cherches plus à être populaire dans ta relation avec les enfants, qu'à me mettre à la première place? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Et en terminant, si nous n'avons pas d'enfants, notre bonheur sera de toute manière dans le don de nous-mêmes au Seigneur, avec ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons. Et le Seigneur saura alors nous donner la grâce de vivre dans cet état heureux, disponible à son service. Dieu doit rester Seigneur, quel que soit notre statut, parce que ce n'est qu'ainsi que nous connaissons sa plénitude d'approbation. Et avec elle, et dans nos combats, cette paix qui surpasse toute intelligence, celle de savoir que Dieu est d'accord, que nous vivons à l'unisson de sa pensée, et que nos relations avec notre conjoint et avec nos enfants est une relation juste, continuellement corrigée, continuellement recentrée. Merci au Seigneur d'avoir mis dans les Écritures ces deux histoires, tellement différentes par certains côtés, celle d'Elkana et Anne, avec cette démarche remarquable d'Anne, et puis celle d'Abraham, dans sa relation particulière avec son fils, son unique, celui qu'il aimait, si longuement attendu, et qu'il a accepté volontairement de mettre sur l'autel, faisant pleine confiance au Seigneur, que s'il devait même mourir sous sa main, Dieu le ressusciterait. C'est là ce que nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Sa confiance dans le Seigneur, à l'apogée de sa foi, était arrivée jusque-là. Mais ce fut aussi un moyen pour Dieu de placer de justes rapports entre le Père et le Fils unique, afin que le Fils unique ne soit pas idole dans le cœur du Père. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette histoire de Genèse 22 cet après-midi, quelque peu, mais avec d'autres exemples, lorsque nous entrerons tout à l'heure dans la deuxième partie. Nous avons vu ce matin cette priorité par excellence, cette pierre angulaire. Cet après-midi, nous entrerons dans le détail de l'éducation par l'exemple. Nous verrons ce que cela signifie, l'importance de l'exemple des parents pour une éducation bénie, même s'il est difficile, de leurs enfants. Nous voulons prier. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que cette réflexion dans ta présence est pour nous une occasion à ne pas manquer de faire le point dans nos vies quant à l'attitude que nous avons à l'égard des enfants que tu nous as donnés. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la grâce, si nous reconnaissons clairement devant toi nos erreurs, notre vision qui a dévié, notre attachement trop possessif, trop exclusif, l'absence de reprise des mesures, ou simplement même l'absence du don de nos enfants à ta personne. Seigneur, si tu nous as dit quoi que ce soit dans ce domaine, donne-nous vraiment de reconnaître, d'avouer, de plaider coupable, de saisir aussi ton pardon et tes promesses de restauration, parce que nous avons le désir de changer, de modifier la qualité de nos relations avec nos enfants. Seigneur, merci de travailler par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Sois béni pour ta grâce. Merci de pouvoir en quelque sorte te prêter nos enfants, comme Anne l'a fait, donner sous forme de prêt, te faire confiance pour leur éducation, tout en remplissant nos devoirs de parents. Continue à nous visiter dans nos cœurs, à éclaircir notre regard pour que nous comprenions tout ce que cela peut signifier pour nous, personnellement, concrètement, dans notre foyer. Et puis merci, Seigneur, de ce que tu veux donner un temps béni de communion fraternelle et une bonne rencontre cet après-midi pour que nous puissions achever la part que tu avais prévue pour chacun d'entre nous durant ce week-end. Merci Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur en Jésus-Christ parce que tu nous as bénis toi le premier et nous t'aimons en son nom. Amen.